pour commencer cette émission, nous accueillons Catherine au 3921. Bonsoir Catherine.
Bonsoir Olivier.
Bonsoir. D'où nous appelez-vous, bonsoir. Catherine ?
Eh ben, je suis actuellement à Paris.
Oui.
Voilà. Je réside sur Paris. On bouge un peu, mais là, vu la période de Covid que l'on vit depuis un an et demi, je dirais qu'on est resté bloqué à Paris et en France, puisque on est entre la France et le Japon.
Vous êtes avec normalement entre la France et le Japon.
Oui.
D'accord.
Oui. Et moi, j'ai une liste.
Et pourquoi cela ? Dites-moi.
En fait, simplement, je dis simplement parce que c'est juste une histoire, mais simplement parce que j'ai eu envie de vivre ma passion. Voilà.
Oui.
À 59 ans, ou plutôt, et j'avais aussi très envie, et j'ai très envie de vraiment d'apporter ces messages parce que j'ai vraiment envie qu'on puisse trouver justement une lueur quelque part et une lumière quelque part pour se dire « Ah, mais il y a plein de choses qui sont possibles ». Alors, si je raconte mon histoire un petit peu, j'ai vraiment envie d'apporter ce rayon de soleil, même s'il fait nuit là, à cette heure-là. Mais j'ai vraiment envie d'apporter un rayon de soleil. Moi, j'ai grandi dans une campagne normande. Et à 59 ans, j'avais jamais pu vivre ma passion. Et il était grand temps, si je voulais la vivre, de m'y mettre. Et c'est mon fils, en fait, qui m'a poussée à ça et qui m'a dit « Maman, promets-moi qu'un jour, tu vas vivre de ta passion ». Et à 59 ans, j'ai décidé de vivre ma passion, à l'âge où on aurait pu prendre une retraite.
Oui. Voilà. Quelle est cette passion, Catherine ? Car je sens que tout le monde trépigne de savoir quelle est cette passion.
Ma passion, elle est toute simple et on est toujours dans le partage, c'est la gastronomie.
D'accord.
Et moi, je ne me suis jamais considérée comme une passionnée, mais comme une toquée. Plutôt.
D'accord. Une toquée, au sens toque sur la tête.
Non, pas du tout.
Ah bon, une toquée, une vraie.
Une vraie.
D'accord.
Authentique.
Une rigolote, une toquée rigolote.
Ouais, une toquée pleine de vie, pleine d'espoir, pleine d'énergie, et voilà, et qui n'a pas du tout envie d'arrêter de vivre, quoi.
Mais est-ce
et
que
de
finalement, Catherine, avec oui. Du recul oui. aujourd'hui, oui. car vous avez, je vois sur votre fiche que vous avez 6 ans de plus maintenant, et que, avec du recul, est-ce qu'il ne faut pas être un peu toqué pour vivre ses rêves dans ce monde qui encourage peu à dévier de la trajectoire que l'on a déjà dessinée. Hein, et c'est compliqué aujourd'hui de rêver et de se lancer dans sa passion. Est-ce qu'il ne faut pas être toqué pour y arriver ?
Moi, non. Non. Ce n'est pas le fait de... Il ne faut pas être toqué, il faut juste, ne pas écouter.
Ne pas écouter les autres.
Ah, mais surtout pas. Il faut juste vivre ce qu'on a envie de vivre, tout simplement.
Alors vous étiez donc une passionnée de gastronomie ?
Ouais. Moi, j'ai grandi dans la campagne normande et je me souviens, tout enfant, moi, j'étais entre les fermes, voilà, et j'allais chercher tout ce qu'il y a meilleur dans les fermes et dans les champs, je mangeais tout ce qu'il y avait, même s'il ne fallait pas le manger. Donc déjà, j'aimais découvrir les saveurs, j'aimais découvrir tout ça. Et moi, au fil du temps, plus je grandissais et plus je me disais, mais comme j'aimerais avoir mon restaurant, comme j'aimerais faire ça. Alors, je le voyais à la télé, mais comme je pouvais pas le faire, comme je n'ai jamais pu le faire, en fait, je faisais profiter à la maison. Et donc, toutes les semaines, mon mari, souvent d'ailleurs, me disait le vendredi, « Ah ben c'est bon, ce week-end, on n'a personne. Ah, »« Ben oui, mais le samedi matin, ça y est, c'est bon. On a du monde ce soir. » Parce qu'il fallait que je cuisine, il fallait que je fabrique. Et moi, en fait, c'est mon univers. On me met dans la cuisine au moment où j'étais encore dans mes cuisines à la maison. Je pouvais m'y mettre à 8 heures du matin jusqu'à 8 heures du soir et je pensais à rien d'autre.
Oui, vous preniez plaisir à cuisiner pour les autres et à cuisiner tout court.
Oui, j'aime le partage, en fait. J'aime le partage, j'aime la gastronomie, j'aime les meilleurs des produits. Je vais toujours chercher les meilleurs produits. Et mon fils, je l'ai emmené partout dans les fermes parce que je lui ai fait découvrir les bons produits. Et c'est, en fait, j'ai grandi et je me suis approprié d'ailleurs tout un tas de recettes parce que j'allais voir les chefs. En fait, je suivais depuis le début ma passion, quoi. Ma passion, ma voix que je n'ai jamais pu pratiquer vraiment. Mais jamais, en fait, je me suis imaginée arriver à cet âge et me dire allez, je vais me lancer. Allez, je vais le faire. En fait, comme je l'ai toujours gardé en moi et jamais vraiment pratiqué professionnellement, pour moi, voilà, je travaillais. Bon, en même temps, je travaillais aussi dans l'humain puisque je travaillais dans les ressources humaines. Et moi, j'ai toujours été proche de ça. Donc, je pense que l'humain et la gastronomie font bon mariage.
Et cette relation donc avec le Japon, en fait, parce que la gastronomie, c'est large, en fait. Qu'avez-vous emporté importé au Japon, hein, plutôt. Qu'est-ce que vous leur avez fait manger à ces Japonais ?
Bah, écoutez, en fait, moi, quand mon fils m'a fait promettre de vivre ma passion, je suis rentrée, j'étais pendant mes vacances et je suis retournée à mon bureau en septembre. Et j'ai été voir ma RH et je lui ai dit, Laurence, je pars dans ma salle de jeu. Je veux faire une reconversion professionnelle. Elle me dit, mais qu'est-ce que vous voulez faire, Catherine ? Je dis, moi, je veux aller dans les cuisines, je veux apprendre toutes les techniques de la gastronomie. Bah, Catherine, vous avez 59 ans, allez-y, quoi. Et donc, je suis partie, je me suis inscrite et j'ai fait mon diplôme supérieur de cuisine. Dans la foulée, il y avait, après mon diplôme, j'ai vu un concours de mousse au chocolat à Paris. Et mon fils, qui m'appelait maman au chocolat à l'époque, quand il était petit, faisant référence à la mousse au chocolat, et il est parti vivre au Japon depuis 2008. Et je l'appelle au Japon, parce que c'était en 2016, c'est pas très vieux. Hein. Et je l'appelle au Japon et je lui dis, tu sais, je suis dingue parce qu'il y a un concours de mousse au chocolat et je ne vais pas pouvoir le faire. Il dit, mais maman, mais vas-y, t'as attendu ça toute ta vie. Va faire ce concours de mousse au chocolat. Je suis partie faire le concours et j'ai gagné le premier prix de la meilleure mousse au chocolat de France. Et notre fils, vivant au Japon, nous a proposé de venir fabriquer la mousse au chocolat au Japon. Et avec mon mari, on s'est dit, allez, on va vivre une belle aventure. C'est génial parce que voilà, là où tout devrait s'arrêter, malheureusement, dans les entreprises, eh ben nous, on va y aller et on va vivre une belle aventure.
C'est bien la preuve, c'est bien la preuve, Catherine. C'est bien la preuve que bon nombre de personnes qui attendent, alors avec impatience, et je les comprends, hein, parce que souvent il y a une pénibilité au travail qui fait qu'on attend avec impatience la retraite. Mais je connais aussi bon nombre de personnes qui, dès 60 ans, prennent cette retraite comme une vraie punition. Parce qu'à 59, 60 ans, on est en pleine possession de ses moyens et on peut faire tout un tas de choses. D'ailleurs, vous en êtes la preuve vivante, parce que partir, tout recommencer comme ça, en tout cas commencer autre chose plutôt, parce que ça n'est pas tout recommencer. Mais alors, vous vous êtes installé au Japon, comment est-ce que vous avez fait ? Vous avez décidé de partir vivre au Japon ? Comment ça s'est passé ?
Eh ben, on a décidé, alors mon mari Philippe, il a créé la société française, on a vendu tous nos meubles, on s'est débarrassé de tout. On a mis toutes nos économies de retraite.
Oui.
Et on s'est dit, allez, on part. On est parti avec 150 kilos de bagages. Et on est parti faire la mousse au chocolat au Japon. On a commencé par des dégustations gratuites pour voir si les Japonais, ils aimaient la mousse au chocolat. Et on a fait ça pendant une petite année, à peu près, avec
résultat,
des allers-retours.
Résultat, est-ce que les Japonais aimaient la mousse au chocolat?
Ah non, mais ils adorent la mousse
adorent.
Au chocolat.
Ouais. Ils adorent,
alors,
ça ne m'étonne
ils
pas.
Adorent ils adorent notre histoire. Alors, les Japonais ne sont pas tactiles, hein, on le sait, et vraiment, ce n'est pas dans leur culture, mais vraiment, les Japonais me prenaient dans leurs bras, me caressaient la main. Oh, madame, bravo, madame. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est beau. Oh là là, la mousse au chocolat, elle est super bonne. On vendait 400 pots de mousse au chocolat par jour.
Incroyable. Et alors, vous les fabriquez à l'ancienne, comment est-ce que vous faisiez? Parce qu'à 400 mousse au chocolat, on n'est pas dans une fabrication industrielle, on est dans l'artisanal. Comment faisiez-vous?
Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'au départ, on a fait des dégustations gratuites et quand on a vu que les Japonais aimaient la mousse au chocolat, on a été approchés, plus on faisait des dégustations et plus on était approchés par des magasins. Et on a été invités dans un très beau magasin à commercialiser la mousse au chocolat. Allô?
Oui, je suis là.
J'entendais plus.
Ah, mais moi, je vous écoute religieusement, ma chère.
Et on a été invité dans un très beau magasin à vendre la mousse au chocolat. Et là, on avait fabriqué 200 pots de mousse au chocolat pour le week-end. Et les 200 pots de mousse au chocolat sont partis en 3 heures de temps. Et donc, quand on a vendu comme ça, on a été approchés par des grands magasins qui nous ont demandé pour venir dans les très beaux départements stores du magasin du Japon. Et en fait, à partir de là, moi, je ne parle pas anglais, je ne parle pas japonais. Alors, il fallait une interprète. Donc, j'avais un interprète avec moi, mais quand il a fallu prendre la décision d'aller dans les grands magasins, j'ai formé un pâtissier japonais.
Oui.
À ma recette. Et donc, le pâtissier japonais travaillait pour nous, fabriquait notre mousse au chocolat et nous livrait directement dans les grands magasins.
D'accord. Est-ce que
moi, j'étais parce que là pour les clients.
Nous avons un auditeur fidèle. Qui s'appelle Jocelyn,
oui.
Et qui fait des
oui.
macarons là-bas au Japon.
Ah,
peut-être
oui.
l'avez-vous croisé?
Ouais.
Oui, vous le connaissez?
Mais je ne sais pas si c'est la personne qui est à Tours qui fait les macarons.
Bah, il est au Japon, hein. Il est au Japon, lui. Hein. Mais il est originaire de Tours, me dit Florian.
Ah, mais c'est ça.
Vous avez dû échanger sur Instagram ensemble.
Oui, mais bien sûr, c'est la maison du macaron.
Oui, c'est ça. Et tous les matins, ouais. donc, en ce moment, puisque ouais. là-bas, c'est le matin, eh bien, ouais. Jocelyn écoute la Libre Antenne et souvent nous envoie des messages, il écoute et tout. Donc, preuve que ces petites douceurs hein, qui viennent de France ouais. font un malheur là-bas. Hein.
Oui. Et les Japonais ont un vrai palais. Alors, moi, je vous écoutais aussi au Japon.
Ah, bah, super.
Parce que tous les matins, effectivement... J'écoutais la radio avant de partir. J'adorais écouter l'antenne. Donc oui, les Japonais aiment beaucoup les gourmandises françaises. Ils adorent le chocolat, mais en même temps, ils ont un vrai palais.
La cuisine japonaise est très subtile. Hein. D'ailleurs,
oui.
on peut préciser ici, pour celles et ceux qui aiment les sushis, que au Japon, les sushis, ça n'est pas japonais, les sushis, vous confirmez ou pas?
C'est japonais, mais en même temps, c'est franchement pas la gastronomie japonaise.
Oui, c'est ça, le sushi.
Pas du tout. C'est la gastronomie japonaise et franchement autrement que le sushi. C'est pour ça, en fait, c'est un petit peu dommage, mais franchement, la gastronomie japonaise, c'est quand même le pays le plus étoilé au monde, hein, le Japon. Donc, il y a des chefs, c'est vraiment l'état de l'art, quoi. C'est une vraie gastronomie.
Et donc, et une vraie gastronomie très, très subtile, assez sophistiquée, hein, en fait, parce que c'est l'une des au même titre que la France, hein, une gastronomie, une des premières gastronomies du monde. Et en fait, je crois que vous avez tout de même affronté. Alors, racontez-moi, vous avez commercialisé, vous avez fait une marque de votre mousse au chocolat, me semble-t-il.
Oui, oui. Alors nous, on s'appelait Maman en chocolat à la base.
Maman en chocolat.
Maman au chocolat.
Maman au chocolat. Parce que
c'est mon fils qui m'appelait comme ça et on s'est fait attaquer pour le nom et on a été fin 2019, début 2020, on a été obligé de changer de nom et maintenant c'est Catherine Bréa, c'est mon nom.
D'accord. Ah, vous avez été contrainte donc de changer de nom, donc je suppose par une autre marque française.
Oui.
C'est pas très classe hein, tout ça quand même. C'est pas.
Non.
Voilà, c'est parce que vous étiez vraiment finalement au Japon, vous ne menaciez pas tant l'économie de cette marque que l'on ne citera pas. Parce qu'elle fait partie des annonceurs d'Europe 1, donc on va éviter de taper sur les gens qui nous font gagner des sous. Mais tout de même, si vous avez un peu d'imagination, vous qui nous écoutez, de Maman en chocolat, qui fait des choses sucrées, hein, de la mousse au chocolat, devinez, vous pourrez deviner aisément quelle grande marque de ces douceurs Catherine a pu gêner. Et sincèrement, je trouve ça malheureux. Et en plus de ça, Maman au chocolat étant quand même assez éloignée de cette marque.
Ah, complètement, complètement.
Et on vous a quand même, on vous a quand même donné tort. C'est ça qui me.
De par la notoriété, c'est tout simple.
Carrément, ouais. Ça c'est, c'est assez étonnant.
Oui. Mais en même temps, moi je me dis, ça fait partie de l'histoire. C'est un mal pour un bien. Et mon fils m'a dit, maman, de toute façon, tu seras toujours,
maman au chocolat.
mais en même temps, c'est ton nom, c'est ton histoire, c'est tes produits, c'est ta mousse au chocolat.
Oui, non, mais je suppose que ça a été pour vous un contretemps fâcheux, parce que je suppose que le packaging de vos produits était fait, le design et que Maman en chocolat.
Le problème, c'est que nous, on devait, en fait, fin 2019, on est revenu en France, mais on avait déjà notre billet du retour pour le 10 janvier, puisqu'on commençait la Saint-Valentin au Japon dans les grands magasins le 15 janvier, et on avait des événements jusqu'au mois de mai réservés. On était au catalogue des magasins et on était déjà vendus dans une boutique au Japon.
Comment ça s'est passé tout ça? Vous avez été obligé de retirer vos produits?
Oui. On a été obligé d'enlever parce qu'on n'avait plus le droit de commercialiser sous
ce nom-là. C'est terrible, terrible.
Donc, on a tout mis à la poubelle, comme les packaging, toutes nos plaquettes qui étaient traduites en japonais. Hein, donc, on a tout jeté, en fait.
Mais c'est bien que celles et ceux qui nous écoutent savent ça. Et je vais renchérir en vous disant qu'il y a 12 ans, je présentais, en tout cas, j'incarnais une série de documentaires sur France 4 qui s'appelait « Nouveau regard ». Et j'avais fait un film sur les agriculteurs que j'avais intitulé « Le malheur est dans le pré ». Eh bien, imaginez-vous que la maison de production qui produit l'excellentissime émission « Le bonheur est dans le pré », je dis bien « excellentissime », voyez l'intonation, eh bien, m'a contraint de changer de nom sous peine d'attaquer France Télévisions. Voilà.
Non.
Et si, mais si. Vous voyez, sous des airs angéliques, campagnards, petites pâquerettes, il y a derrière des grands méchants messieurs avec des costards et des cravates qui veillent au grain. Qui veillent au grain.
C'est fou, hein.
À Maman en chocolat aussi. Donc, nous sommes dans un drôle de monde. Nous sommes dans un drôle de monde.
Pas plus tard que ce soir,
voyez-vous, il y a un site sur Instagram qui s'appelle The Dark Side of the Nature, qui est un site vraiment que beaucoup de personnes allaient voir, parce que c'était des photos et surtout des vidéos d'animaux dans des situations voilà, de la nature et montrant la nature brute comme elle est, mais aussi brute que belle. Eh bien, depuis quelques heures, c'est pareil. Ce site n'a plus le droit de d'émettre ses vidéos et c'est une page noire qui a, au plus grand désespoir, à mon plus grand désespoir et de beaucoup de personnes qui adoraient ce site, tout ça parce que des maisons d'édition, en fait, donc qui ont déjà perçu les droits d'auteur sur ces vidéos, eh bien, entament des procédures pour aller racler les fonds de tiroir. Et voilà, on est dans un drôle de monde. Dans un drôle de monde.
Ouais, c'est pas beau. Hein.
Non.
C'est pas beau.
Bon, enfin, on va pas s'apesantir sur ce côté-là. Je pense qu'on a dit ce qu'il fallait. Comment ça va aujourd'hui? Comment maman en chocolat? Parce que je peux le dire, moi. Hein. Maman en chocolat, maman en chocolat.
Ah oui, ça pose aucun problème.
Je peux le dire.
On m'appelle
maintenant.
Encore comme ça. Hein,
voilà, mais comment, Catherine, comment ça se porte tout ça au Japon? Parce que...
Eh ben nous, aujourd'hui, en fait, on avait vraiment envie de continuer de vivre notre histoire et on avait décidé depuis donc l'année dernière, depuis début d'année dernière, depuis le mois de janvier, donc de changer de nom et de continuer notre histoire même si on n'avait plus rien. Et donc on a continué notre histoire, on a vraiment essayé puisqu'on était très sollicité quand même pour des personnes en France nous disaient mais où est-ce qu'on la trouve votre mousse au chocolat? Donc on s'est dit on va faire la mousse au chocolat en France, on va essayer de lancer la mousse au chocolat en France. Et on a été repéré au mois de septembre l'année dernière par le groupe Les Printemps, par les acheteuses du Printemps Haussmann.
Oui, ce qui est tout de même prestigieux quand même. Hein.
Ouais, et ils ont goûté nos produits, ils nous ont dit bah, écoutez, on vous invite à venir faire le lancement de votre marque au mois de décembre, malgré le Covid, on va faire un événement de Noël et on vous invite à venir au mois de décembre vendre vos produits et lancer la marque.
À Paris, donc à Paris.
Oui.
Et qu'en est-il au Japon? Qu'en est-il? Je vous laisse finir sur le printemps, pardonnez-moi.
Alors, sur le printemps, on a très, très bien vendu et j'ai eu un client mystère qui est venu pendant cette vente. Et ce monsieur a voulu découvrir la marque, que je lui raconte l'histoire et goûter la mousse au chocolat. Et d'un seul coup, il me dit, bon, écoutez, vous n'êtes pas du tout au bon endroit. Là, on va mieux vous positionner parce qu'aujourd'hui, vous avez un produit, une histoire que nos clients, ils attendent. Moi, je suis le président du groupe Les Printemps.
Oh, génial, génial.
Ah bon, enchanté. Donc, on va vous garder dans le magasin. Donc, effectivement, on est resté au printemps. On y est retourné au mois de janvier. Ça a très, très bien marché. Malheureusement pour nous, les magasins ferment fin janvier.
C'était
vraiment pas de chance.
Non, vraiment, ça a été la galère. Mais on en voit le bout.
Oui, on en voit le bout. Parce que, enfin, en tous les cas, je pense que même moi, je reste très positive. Donc... Je suis heureuse de vivre ce que l'on vit et l'histoire. Donc, les Printemps Haussmann nous ont redemandé, du coup, et nous ont demandé de revenir. Et on retourne au printemps, on y est de nouveau à partir du 24 septembre jusqu'à la fin d'année.
D'accord. Et au Japon, qu'en est-il? Vous allez y retourner fois que ça va rouvrir?
Alors, le Japon, bien sûr, parce qu'on a quand même un beau réseau au Japon. Et notre fils va reprendre justement un petit peu les manettes de ça. Et le Japon, on est invité en février 2022 sur un très gros événement pour justement relancer la marque au Japon. Et on est attendu, vraiment.
Alors, voilà,
donc j'espère que la situation va le permettre. Mais sinon, on continue en France puisque... Là, on va être aussi, on a été approché par le nouveau Pullman qui va ouvrir à Paris et on va être commercialisé. Ils nous prennent à la carte du restaurant et à la boutique et dans les chambres. Et puis dans d'autres, on est à Nice aussi, dans une très belle épicerie. Donc, tant mieux.
Écoutez, c'est génial.
C'est une histoire, ouais.
Je vous remercie d'avoir pris le temps de nous appeler et de raconter votre histoire ce soir sur l'antenne d'Europe 1 parce que lorsque j'ai pris connaissance de notre échange de ce soir, le futur échange que nous devions avoir, je me disais que vous étiez tout de même représentative de ce rêve que les gens aiment écouter, entendre ce soir, sans doute, parce qu'aujourd'hui, de plus en plus, et on le voit à travers les podcasts, hein, les auditeurs, les gens, en règle générale, jugent les gens et aiment les histoires et jugent les personnes aux épreuves qu'ils ont affrontées. Et puis, c'est une épreuve que vous avez affrontée, parce que tout quitter comme ça pour se lancer dans la fabrique de mousse au chocolat au Japon, c'est tout de même une sacrée aventure à relever. Donc, je vous félicite, bien évidemment. Est-ce que vous souhaitez que ça s'étende, que ça ne devienne pas comme la marque qui vous a fait changer de design et de nom?
Non,
mais,
pas du tout. Non.
Mais vous allez rester dans un domaine plutôt, pas confidentiel, mais comme ça l'est maintenant, un petit peu chic, finalement.
Ah ben complètement. Non, c'est pas un petit peu chic. C'est juste que c'est une mousse au chocolat. En fait, moi, ce que j'ai voulu au travers de la mousse au chocolat, j'ai voulu que quand on mange la mousse au chocolat, on retombe en enfance. On redécouvre ce qu'on a connu dans notre enfance.
C'est ça.
Aujourd'hui, ce que l'on mange, c'est pas ça, quoi. Donc,
on va conclure juste après l'info, si vous le voulez bien, Catherine, comme ça on prendra le temps de se dire au revoir. D'accord ? Vous restez avec moi et on se retrouve dans quelques secondes. À tout de suite. Nous sommes toujours avec Catherine. Catherine, à qui nous devons dire au revoir, Catherine. Catherine, donc, en France, ça va. Hein, vous faites votre petit bonhomme de chemin. Finalement, c'est assez incroyable de voir que tout ça est parti du Japon qu'avec la crise sanitaire, la France s'est posée comme une opportunité et qu'aujourd'hui, ça ne demande qu'à se développer, hein, cette bonne mousse au chocolat.
Ouais.
Un retour vers le Japon prévu aux alentours de quelle période ?
Février, début 2022.
D'accord. Donc là, vous partez avec votre mari et vous faites quoi là-bas ? En fait, vous fabriquez dans un laboratoire que vous partagez avec ce pâtissier japonais, ou comment faites-vous là-bas au Japon ?
Non, c'est le pâtissier japonais qui fabrique dans le labo.
D'accord.
Moi, je donne les recettes, enfin je donne entre guillemets les recettes, je le forme aux recettes et lui développe et lui fabrique et nous livre sur les lieux de vente.
D'accord. Et donc pour les produits, je suis curieux, hein, mais bon. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment les petits secrets des recettes. Les produits là-bas, en fait, les produits frais, vous les faites venir de France ou vous arrivez à trouver le lait qu'il faut
On a l'équivalent, en fait, c'est un petit peu comme la France. Je dirais qu'au nord, c'est un peu tous les produits laitiers au nord du Japon.
Oui.
Et sur Hokkaido, ils ont du très bon beurre, du très bon lait. Vers le nord et vers le sud, on a tout ce que l'on peut. On a les fruits, on a le sucre, on a tout. Mais au Japon, on trouve tout.
Ah, on trouve tout, d'accord.
Et tout.
Gaëtan, au 739, nous demande, au 739-21, dans quelle épicerie trouve-t-on vos produits à Nice ?
À Nice, c'est la maison Pellegrino.
D'accord.
Qui est rue du Marché à Nice.
Voilà. Eh ben, écoutez, Gaëtan, si vous voulez goûter aux saveurs de votre enfance et peut-être découvrir, parce que vous qui êtes de Nice, peut-être ne connaissez-vous pas les saveurs de la mousse au chocolat qui vient de Normandie, parce qu'il faut aussi souligner le savoir-faire normand à travers cette mousse au chocolat, eh bien, vous pouvez aller dans cette épicerie. Merci mille fois, Catherine. Et puis,
merci, c'est un plaisir partagé.
Bon courage à vous. Et puis, vous embrassez bien votre mari pour nous. Et puis, le fiston qui est au Japon ou qui est rentré en France aussi ?
Non. Il est toujours au Japon. Il est avec le Covid, personne ne bouge. Donc, on a hâte de le retrouver aussi, quoi.
Mais c'est vrai que l'Asie, en ce moment, est durement touchée et qu'on n'en voit pas le bout. Mais bon, ça va venir, ne vous inquiétez pas, ça va venir.
Oui.
On vous embrasse, Catherine.
Oui, moi aussi, je vous embrasse, Olivier. Merci beaucoup.
Merci, au revoir.
Au revoir.